Voice of Indonesia.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition d'aujourd'hui. Et nous allons vous présenter un certain nombre de programmes. Nous commençons par le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, nous présentons maintenant le journal et voici le titre. Pour soutenir le programme du président Jokowi pour développer le tourisme dans le sud de Sulawesi, l'entreprise nationale d'électricité ou PLN est prête à investir. Le ministère indonésien de la communication et de l'information invite des dizaines de journalistes étrangers à reconnaître la démocratie en Indonésie. Selon le vice-président, l'application de taxes numériques reste un problème mondial. Le ministère de l'Agriculture organise AgriVagansa et souhaite que la millénaire entre dans le secteur agricole. Le port de Labuan Bajo est un port touristique spécial. Charmi nous présente maintenant le journal complet. L'entreprise nationale d'électricité ou PLN est prête à investir dans l'électricité pour soutenir le programme du président Joko Widodo visant à développer le secteur du tourisme dans la province de Sulawesi du Nord. Syamsul Huda, directeur commercial de PLN régional de Sulawesi, a déclaré jeudi qu'il était prêt à construire l'électricité dans le nord de Sulawesi pour soutenir le développement et la croissance économique de la province, notamment dans le secteur du tourisme. L'augmentation de la consommation d'électricité par les habitants dans le nord de Sulawesi a augmenté en raison de l'étendue des activités touristiques et industrielles à Manado et dans ses environs. En outre, le projet du gouvernement provincial de Sulawesi du Nord, qui fait de cette province comme centre commercial en Indonésie, nécessitera le grand soutien en électricité. Le ministère indonésien de la communication et de l'information, ou Kominfo, a invité 14 journalistes de plusieurs pays de la région du Pacifique Sud et d'Afrique à reconnaître la démocratie et la politique en Indonésie. Des dizaines de journalistes étrangers ont eu un aperçu de la démocratie en Indonésie lors du forum diplomatique sur le succès de l'Indonésie dans l'organisation de la paix et des élections démocratiques simultanées à Yogyakarta jeudi. Le directeur de l'information, de la communication et de la politique, du droit et de la sécurité de la Direction générale de l'information et de la communication publique de Kominfo, M. Bambang Gunawan, a déclaré que jusqu'à présent, de nombreux journalistes étrangers n'ont pas encore reçu d'informations directes sur la démocratie et la politique indonésienne. Ils craignent que des informations qui ne sont pas obtenues directement entraîne une fausse perception de l'Indonésie. Le vice-président, M. Yusuf Kalla, a reconnu que le monde était encore difficile de trouver des moyens de collecter les taxes auprès des entreprises numériques. Par conséquent, la ministre indonésienne des Finances, Mme Sri Mulyani, et les pays membres du G20 cherchent également des moyens de collecter leurs impôts. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré jeudi à Jakarta que la taxe numérique restait un problème mondial parce que les industries numériques au monde, qui sont contrôlées par 4 sociétés, à savoir Google, Microsoft, Facebook et Amazon, ont déclaré que le monde avait accès à leur information gratuitement. Mais selon Yusuf Kalla, Google a également bénéficié de la publicité en Indonésie et a également dû payer des impôts. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère de l'Agriculture organise l'exposition Agrivaganza pendant 3 jours, du 11 au 13 juillet 2019, pour cibler la génération du millénaire afin qu'ils puissent faire des affaires dans le secteur agricole et améliorer la compétitivité de l'agriculture indonésienne. Momon Rusmono, le haut fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, a déclaré jeudi, lors de l'inauguration de Agrivaganza au Centre d'information agroalimentaire du ministère de l'Agriculture à Jakarta. Agrivaganza expose des performances agricoles pour qu'ils puissent être imités par la génération du millénaire. Les ressources humaines et les infrastructures agricoles sont la clé d'une agriculture compétitive. Le port de Labuan Bajo, dans les régions de l'ouest de Manggarai, à l'est de Nusa Tenggara, sera utilisé comme port touristique spécial pour être jeté l'ancre par les navires de tourisme visitant cette région, tandis que pour les ports publics et les ports de marchandises seront déplacés à Bari. C'est ce qu'a déclaré Marius Ardu Delamu, responsable des relations publiques du secrétaire général de l'Est de Nusa Tenggara, jeudi pour répondre aux questions sur la visite du président Joko Widodo dans la région et prévoyait de développer l'infrastructure complémentaire du tourisme de la région. Jeudi, le président a visité le port de Labuan Bajo car il était prévu qu'il ne soit destiné qu'aux navires de tourisme transportant des groupes de touristes. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Secrétaire, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, la coalition internationale pour garder Bab el-Mandeb. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran ne se sont pas apaisées. Après avoir imposé des sanctions qui ont également conduit le chef suprême de l'Iran, les États-Unis vont mobiliser le soutien d'autres pays pour placer l'armée dans les eaux proches de l'Iran. Comme a été affirmé par le général Joseph Dunford, chef de l'état-major américain, Washington avait pris l'initiative de mobiliser une coalition militaire internationale dans les zones du détroit d'Hormuz et de Bab el-Mandeb. Ces deux zones sont très importantes pour le trafic maritime, en particulier les pétrolières transportant du pétrole. L'initiative de l'armée américaine de placer la coalition internationale dans ces deux pays aurait pour but de garantir la sécurité et la liberté de la navigation. L'idée de former une coalition internationale est venue après une déclaration de Téhéran qui menaçait de fermer les eaux de Bab el-Mandeb. La menace était soulevée comme réaction aux sanctions américaines interdisant le commerce et l'expédition du pétrole iranien. Si le blocus iranien est mis en place, le trafic commercial environ 4 millions de barils de pétrole à travers le monde via Bab el-Mandeb sera perturbé. L'invitation des États-Unis à sécuriser le détroit d'Hormuz et Bab el-Mandeb à ce jour, vendredi le 12 juillet, n'a reçu aucune réponse. La menace iranienne de bloquer el-Bab el-Mandeb peut toutefois générer une réaction large et différente, en particulier dans les pays intéressés par le commerce du pétrole. Bien que cela ne soit pas lié à la menace de fermeture de Bab el-Mandeb ou à l'initiative de mobilisation d'une coalition militaire internationale, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a déclaré lundi que l'intimidation unilatérale par les États-Unis avait provoqué une violation de l'accord nucléaire iranien. La déclaration du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères semble impliquer que l'attitude de Beijing à l'égard de Téhéran était encore modérée. La même attitude est également montrée par la France. Emmanuel Bon, conseiller du président français lors d'une réunion avec le secrétaire du Haut Conseil de sécurité iranien, Ali Shamkhani, à Téhéran mercredi le 10 juillet, suggère l'attitude de la France à l'égard de l'Iran. Selon l'agence de presse iranienne IRNA, Emmanuel Bon a déclaré que Paris souhaitait un dialogue et une coopération avec Téhéran afin de gérer la crise en Syrie, au Yémen, en Irak et au Liban. Voyant les attitudes de la Chine et de la France, les États-Unis pourraient devoir travailler dur pour concrétiser l'idée de former une coalition militaire internationale pour protéger le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandab. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 12 juillet. Le 12 juillet 1947, la détermination de la Journée nationale de la coopérative. La coopérative est une institution économique très appropriée en Indonésie en raison de la nature familiale de la société. La coopérative a été créée pour la première fois par Arya Wiraatmaja de Purwokerto, Jawa Sangha, qui a fondé en 1896 une banque pour les fonctionnaires. Il a fondé une coopérative de crédit dans le but d'aider ses collaborateurs aux prises avec des dettes auprès de prêteurs. Après l'indépendance de l'Indonésie, le 12 juillet 1947, le mouvement coopératif indonésien a tenu son premier congrès à Tasikmalaya, Java West, annoncé par Mohamed Hatta. Le congrès a déterminé, entre autres, le 12 juillet comme le jour de la coopérative et a formé l'organisation centrale de la coopérative populaire basée à Tasikmalaya. Le 12 juillet 1975, le monument national est officiellement ouvert au public. Le monument national, plus connu sous le nom de Monas, a été ouvert au public le 12 juillet 1975. La construction d'un monument de 132 mètres de haut a officiellement commencé le 17 août 1961. Cependant, le discours sur la construction du monument a été évoqué depuis 1950. À cette époque, après le siège du gouvernement et ta retour à Jakarta, le président Sukarno a planifié la construction d'un monument qui serait l'équivalent de la tour Eiffel, juste en face du palais Merdeka. Ce monument et musée est ouvert tous les jours. Le 12 juillet 1990, le début de la destruction de l'Union soviétique. Le 12 juillet 1990, Boris Eltsine a choisi de quitter le Parti communiste de l'Union soviétique. Le revers d'Eltsine était catastrophique. Parce que, après son retrait, la destruction de ce pays superpuissant a commencé. Le début du retrait d'Eltsine du Parti communiste a été la réélection de Mikhail Gorbatchev à la tête du parti qui dirigeait directement l'Union soviétique. La montée de Gorbatchev a non seulement été combattue par Eltsine, mais les critiques émanait également de sympathisants du Parti communiste. Eltsine voulait la démocratie totale et transformer le système communiste soviétique en un système multipartite, tandis que les sympathisants extrémistes rejetaient Gorbatchev à cause de sa mesure politique et économique médiocre. Voyant le barrage d'attaque, Gorbatchev a finalement décidé de démissionner de son poste. Peu après l'annonce de sa démission, l'Union soviétique fut officiellement dissoute. Après l'effondrement soviétique, Boris Eltsine a été élu premier président de la Russie et est arrivé au pouvoir du 10 juillet 1991 au 31 décembre 1999. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
kini ku gembira melangkah di udara. Papas membawa berita dari yang ku damba. Sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati. Bagai bingkisan pertama, tak sabar ku buka. Satu, dua, dan tiga.
Voilà la chanson intitulée Surat Cinta ou en français La Lettre d'amour chantée par Fina Panduwinata. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, c'est un temps pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre, le gouvernement accroît l'industrie du tourisme et des exportations à Java orientale et Java centrale. Le président Joko Widodo a encouragé la croissance des industries orientées vers l'exportation et le secteur du tourisme dans les provinces de Java centrale et de Java orientale. Comme l'a déclaré le ministre de la Planification du Développement National, en tant que chef de l'agence de la Planification du Développement National, BAPENAS, Bambang Brojonegoro, après une réunion limitée pour discuter de l'accélération du développement des provinces Java centrale et Java orientale au Palais Bogor mardi. Le ministre Bambang a déclaré que le président Joko Widodo a demandé aux gouverneurs de se concentrer sur le développement de leurs régions respectives qui encouragerait plus tard les investissements en Indonésie, en particulier pour la Provence, de sorte que les exportations soient davantage encouragées. Bambang Brojonegoro a déclaré que l'accélération du développement dans les deux provinces visait à accroître les investissements et les exportations. Pour le centre de Java, le gouvernement concentre sur les efforts à trois zones telles que la zone industrielle de Brebes, la zone industrielle de Kendal et la zone touristique de Borobudur. Le gouverneur de Java central a indiqué plusieurs éléments qui nécessitaient l'assistance du gouvernement central, notamment la fixation de l'aménagement du territoire pour Brebes, l'accélération de la mise en place d'infrastructures de connectivité à Borobudur, le renforcement et l'ajout des capacités du port de Tanjung Emas Semarang afin de soutenir le parc industriel de Kendal. Pendant ce temps, pour Java Oriental, le gouvernement s'est concentré sur l'achèvement d'une raffinerie de pétrole à Tuban qui attend toujours l'acquisition de terrain, le développement de la zone touristique Bromo Tengger Semeru, dont le plan directeur est en cours de préparation par le centre. En outre, le développement de villes métropolitaines Surabaya et des environnantes ou Gerbang Kertasusila. Bambang a déclaré que le gouverneur de Java Est espérait qu'une bonne connectivité, en particulier des transports en commun, serait disponible dans ces régions. Le ministre des Transports a annoncé la possibilité de développer des transports en commun basés sur le train dans la ville de Surabaya et ses environs. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles nous nous concentrons sur le centre et l'est de Java, Bambang expliquait que jusqu'à présent, les zones industrielles et manufacturières étaient principalement situées à Jakarta, Java Occidental et Banten. Selon lui, le gouvernement veut assurer des flux d'investissement faciles d'entrée dans les deux provinces avec la capacité de charge qu'elles possèdent déjà, y compris l'infrastructure. Selon lui, le développement de tous les projets peut être financé par le budget de l'État et impliquera également le secteur privé et les entreprises d'État. Par exemple, le développement du port sera géré par PT Pelindo avec le secteur privé. Pendant ce temps, le vice-ministre des Finances, Marc Diasmo, a déclaré que le gouvernement central fournirait de nombreuses incitations fiscales au secteur privé qui contribuerait à accélérer le développement du centre et de l'est de Java. Selon Marc Diasmo, le ministère des Finances sera en synergie avec le Conseil de coordination des investissements BKPM. Serge Talk, c'était en Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Aku sambil berdendang ku coba tuliskan lagu ceritakan tentang indah wajahmu. Hayalanku pun menari-nari ku bayangkan jika kau ada di sini menulis dan bernyanyi bersamaku. Menulis kisah tentang kau dan aku. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Bersamamu. Saat kau tersenyum menggenggam tanganku waktu hujan turun, betapa ku rindukan saat itu. Dan
bila suatu hari nanti ku kan pergi lagi untuk mengejar mimpi, kan ku simpan senyummu dalam hati untuk bekal ku bermimpi di malam hari. Nantikan ku datang jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Ku pendam semua rasa rinduku kepadamu, kuatkan hati jalani hidup di sini, tenangkan jiwamu ku pastikan kembali bersamamu. Nantikan ku datang jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu.
Indonesia.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Good Morning Everyone dont le titre est Tunggu Aku, qui signifie Attends-moi. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter la plage de Malalayang. Il y a quelque temps, le président indonésien Joko Widodo a effectué une visite de travail au nord de Sulawesi pendant deux jours. Au cours de sa visite, le président a déclaré que le tourisme dans le nord de Sulawesi était en expansion. Au cours des quatre dernières années, le nombre d'arrivées des touristes dans la région a atteint 600%. Une belle nature et des choix touristiques diversifiés sont l'une des raisons pour lesquelles de nombreux touristes s'y rendent. Il existe une variété de destinations touristiques intéressantes que vous pouvez visiter. L'un d'entre eux est la place de Malalayang. L'une des belles places près de Manado est la place de Malalayang. Cette plage et à seulement environ 1 km de la ville de Manado ou environ 10 minutes en transport terrestre. Cette plage possède des vagues calmes ornées de grosses roches le long du rivage. Les vagues sont calmes et sûres pour ceux qui veulent nager. Vous pouvez profiter de la beauté de la plage en plongeant sur cette plage. Les visiteurs qui aiment plonger peuvent louer du matériel de plongée. Le site de plongée n'est pas trop loin et vous pouvez profiter d'une vie marine très diversifiée. Sur la plage de Malalayang, vous pouvez voir l'île de Manado, Tua et l'île de Bunaken, étant célébrées dans le monde entier. En outre, les bâtiments dans la ville de Manado, sur le front de mer, sont également visibles depuis la place de Malalayang. Il y a de petits restaurants qui sont alignés le long de la côte. Ils vendent de nombreuses collations délicieuses. Le casse-croûte le plus commandé est la banane frite. Chers amis, c'est un magazine culturel intitulé « La plage de Malalayang ». Merci à tous et au revoir.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Vous êtes toujours avec nous sur l'onde courte de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Secrétaire, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur et pour le titre, la littérature Nusantara anime les œuvres des étudiants de l'école de mode italienne. Soyez toujours avec nous sur www.voice.id. Les tissus traditionnels indonésiens sont le matériau de 46 étudiants de couture en Italie. 46 vêtements créés par des étudiants d'Academia à Alta Moda, Coiffure, combinent une variété de wastra indonésiens tels que le batik et les tissus tissés. Ces œuvres sont présentées lors de la soirée de clôture de la semaine de la mode de Rome ou Alta Roma dimanche soir. Le spectacle de haute couture tenu au complexe de Pratibu du district de Roma sur le thème Souvenir, impossible wardrobe. Ce spectacle présente la mémoire de temps en temps en explorant différents styles qui ont été la tendance de son époque. Le responsable des informations socio-culturelles au sein de l'ambassade indonésienne à Rome, le ministre conseiller Charles F., a expliqué que toutes les œuvres utilisaient une variété de wastra indonésien associée à d'autres matières textiles telles que le coton, le lin et les techniques de broderie. Les dessinés sont les étudiants de troisième année, travaillent et cousent de leurs propres mains de toutes les œuvres présentées. Environ 400 invités de l'industrie de la mode, des journalistes et des diplomates ont accueilli avec enthousiasme toutes les collections exposées. Pendant ce temps, dans son discours, l'ambassadrice d'Indonésie en Italie, Esti Andayani, a exprimé l'espoir que grâce à cette collaboration, les jeunes dessinés seront inspirés à produire des œuvres interculturelles susceptible de favoriser la compréhension mutuelle pour un meilleur monde. Coiffure a collaboré avec l'ambassade indonésienne à Rome pour organiser le spectacle de la couture de cette année et pour commémorer le 70e anniversaire des relations diplomatiques italo-indonésiennes. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Hianati cinta putih saat aku bernafas untukmu. Entah apa yang engkau pikirkan hingga kau tega menduakan cinta aku. Allah terluka. Selama ini cinta yang telah kita jalani, kau hianati cinta putih saat aku bernafas untukmu. Entah apa hingga kau tega menduakan cinta aku.
Voice of Indonesia.
Jelas bagiku ini jatuh cinta. catch it, babe, you better get ready. 180 miles an hour like I'm in a Maserati. You better let me know, cause I'ma be your Kobe. You can be my Shaq, we can bring your Toby back to the city. Girl, you're so pretty and I'm about to catch you with me. My love ain't mini, but I can be your Mickey. Be my Wonderland, I can be your one and only man.
Karena cinta bisa buat kita tak berdaya pada tempat.
Chers auditeurs, voilà la chanson intitulée Ombak Asmara ou en français Les Vagues de Romance chantées par Ran. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Pour ce soir, nous vous présentons la chanson d'Aceh.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs. Cette fois-ci, je vais vous donner la chanson de la région d'Aceh. Intitulé Bungong Jempa. La fleur de Jempaka est la signification littérale du titre de la chanson. Les Achenais ont glorifié la fleur et l'ont donc inscrite dans une chanson. Dans le passé, Jempa poussait sauvagement sur la terre du Serambi Mekka car elle est une plante endémique qui poussait bien sans être plantée auparavant. En fait, le jempa est plus qu'une belle fleur, car son existence a influencé de nombreux éléments de la culture Aceh, des cérémonies traditionnelles et des sculptures sur les bâtiments. Dans la tradition du peuple Achenais, jempa est utilisé comme symbole de la beauté. Chers auditeurs, voici la fière chanson du peuple Achenais, dont le titre est Bungong Jempa, qui a été réarrangé et chanté par Eka Deli. Bonne écoute.
Bungong jempa, megah di Aceh. Bungong
Voice of Indonesia.
L'émission quotidienne en française pour ce soir. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.